à voix nue. Ce soir encore, nous réécoutons la rencontre en 2014 entre Virginie Bloch l'aînée et Paul Tchaïkovski-Laurence, fondateur des éditions POL qui vient de nous quitter. Ce soir, j'exerce un métier de paresseux, j'attends.
Paul Tchaïkovski-Laurence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur et le directeur des éditions POL que vous avez créées en 1983. Alors que vous travaillez déjà depuis une quinzaine d'années comme éditeur chez Flammarion, puis chez Hachette. Lorsqu'on commence l'un de vos livres, on sait qu'on a des chances de lire un témoignage sur une époque, sur les courants qui la traversent, sur son atmosphère, alors que tout ça reste encore un peu flou pour le lecteur que l'on est. Vous aimez les livres qui captent leur époque ?
Oh oui, forcément, je crois que tous les livres, même les mauvais, captent leur époque. Hein. C'est pas la peine. Ça reflète plus ou moins consciemment, plus ou moins directement, toujours l'époque à laquelle c'est écrit, hein, il me semble. Ne serait-ce qu'à travers ce qu'on appelle le style, si le sujet est par ailleurs intemporel, on a toujours comme ça un marqueur qui vous permet de comprendre un peu le temps.
Est-ce que vous publiez aussi des livres qui sont contempteurs de leur époque ?
Contempteurs, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de visée pamphlétaire ou critique de l'époque. Hein. Je prends ce qui vient. Moi, mon critère, c'est ce que je ressens comme la qualité du livre. C'est beaucoup moins son sujet que sa qualité intrinsèque qui est faite éventuellement de son sujet, mais surtout de la manière dont ce sujet est porté.
Vous aimez chaque époque que vous vivez ? Vous aimez ?
Oh oui, oui, ouais. Je les trouve intéressantes. Oui, oui, je n'ai pas de hiérarchie.
Mmh. Et les années 2010, comment vous les définiriez ?
Vous savez, il y a une chose dont je m'aperçois, hein, si j'essaie de regarder en arrière, mais ce que je fais le plus rarement possible, c'est que je n'ai pas d'opinion sur ce que je fais ni sur l'époque que je vis. C'est-à-dire que je cherche pas à analyser, j'attends ce qui arrive, quoi, en fait, ce qui vient. Et je n'interprète pas trop parce que j'ai peur que l'interprétation me fiche dans un fonctionnement, dans un type de regard et m'empêche de voir ce qui survient. Donc, je qualifie les années 2010. C'est pour moi des années très riches. Avec plein de découvertes, avec plein de nouveaux auteurs, mais je pourrais dire la même chose des années 2000 et des années 90.
Et les années 70, lorsque vous commenciez
Les années 70,
lorsque vous regardez votre vraiment... catalogue, vous regardez en arrière.
Oui, ouais. Je ne veux pas dire que tout ce que j'ai fait est bien, mais je suis heureux de l'avoir fait. C'est aux autres de savoir si c'est bien ou pas. Moi, je suis content, ça correspond à quelque chose que j'avais envie de faire, je n'ai pas de regrets. Parce que j'ai eu cette chance de mener cette vie d'éditeur sans qu'on ne m'impose jamais rien. Il n'y a pas un livre dont je puisse dire qu'il m'a été imposé.
Ça peut arriver à un éditeur ?
Écoutez, oui, je pense. Les circonstances, des situations hiérarchiques compliquées, des choses comme ça peut arriver, bien sûr.
Vous publiez aussi des livres qui témoignent d'époques révolues ? Ça arrive.
Oui, oui.
Et vous avez publié un livre d'un poète américain qui s'appelle Charles Reznikoff, qui est né à la fin du 19e et qui est mort en 1976.
Oui, crois, oui, oui.
Qui s'appelle Témoignages.
Oui, Charles Reznikoff, oui.
Et ce sont des témoignages sur les États-Unis au début du 20e siècle.
C'est ça, oui. Reznikoff était juge, était magistrat. Et à ce titre, il avait accès aux minutes de quantité de procès, de petits procès, plus ou moins petits d'ailleurs, puisqu'il y a quand même des histoires de meurtres. Et il a utilisé ces comptes rendus, ces minutes de procès, pour écrire une œuvre absolument extraordinaire qui s'appelle Témoignage, effectivement, que j'ai. Dont j'avais publié un morceau dans les années en 79-80, je pense, chez Hachette, traduit par Jacques Roubaud, et dont j'ai publié l'intégralité il y a 2 ans maintenant, ici, traduite par Marc Chlodenko.
Pourquoi ça vous touche, Olu Tchaïkovski, alors, dans ce qu'écrit Charles Reznikov, alors que c'est ancien et que c'est...
Oui, c'est ancien, mais la manière de... Alors, la réalité décrite est ancienne. Bon, d'abord, c'est quand même gigantesque. Hein. C'est la naissance des États-Unis. C'est, enfin, la naissance. Ils sont déjà nés depuis un moment, mais c'est le moment où les États-Unis connaissent une croissance extraordinaire, le début du siècle et du siècle dernier. Et c'est une manière de montrer les choses. Bon, Reznikov était un des tenants et un des fondateurs de l'école objectiviste américaine, avec Open, Rakosi, Zhukovsky. C'était une littérature qui se voulait débarrasser de tout affect et qui cherchait à capter la réalité. Je trouve que c'est une démarche qui est aujourd'hui encore intéressante, qui peut être intéressante pour les écrivains d'aujourd'hui et pour les lecteurs d'aujourd'hui.
Vous n'écrivez pas Paulo Tchaïkovski, Laurence, mais votre film fait de petits portraits aussi. Vous faites des portraits des amis de votre enfance, vous les interrogez. Le montage est très serré. Et c'est le portrait des habitants d'une ville de province.
Oui, c'est un... Comment dire oui, c'est une... J'ai voulu revenir dans cette ville une dernière fois. Alors, c'est une dernière fois qui a duré un an, un peu plus d'un an de tournage, comme ça, par petits bouts. J'ai voulu raconter cette histoire dont on a parlé hier, mais j'ai voulu la raconter au milieu de ces témoins plus ou moins directs, plus ou moins concernés, plus ou moins conscients. Enfin, aucun n'était conscient de ce qui se passait. Mais j'avais besoin de la nourrir de personnes, enfin, qu'il y ait du monde. Qu'il y ait en même temps que le récit d'une enfance qui est le portrait de la petite ville dans laquelle cette enfance s'était déroulée. Je voulais que ce soit un peu concret.
Et quand vous entendez vos amis, vos anciens amis, dire que il avait été révélé que vous êtes juif, ça aurait été difficile, ou dire que le fait qu'une rue s'appelle la rue des Juifs, ça faisait rien, qu'est-ce que vous en pensez de vos amis? Parce que on les voit sans vous ne commentez, on ne vous voit pas avec eux. Mais on ne peut pas s'empêcher d'en penser quelque chose. Est-ce que ça vous rend triste ou
Non, pas forcément. D'abord, comment dire, c'est des amis que pour la plupart, à l'exception d'un d'entre eux que j'ai vu de manière épisodique, c'est des amis que je n'avais pas vus depuis 40 ans. Hein, donc, je ne peux pas porter je peux porter un jugement sur certains résultats de certaines évolutions, oui. Mais... la manière dont ils réagissent, je la constate, c'est tout. J'ai pas de jugement trop. Parce que cette amie qui dit qu'elle aurait été embêtée s'il avait su que, elle le dit très sincèrement, enfin, mais ça veut pas dire qu'elle est embêtée aujourd'hui de le savoir. Elle se replace dans le contexte. J'avais très très peur de sa réaction quand je lui ai projeté le film, elle l'a vu pour la première fois là où elle habite. J'avais fait une projection dans cette ville, dans l'ouest de la France, à Nantes. Elle a très très bien réagi parce qu'elle a compris que ça n'était pas malveillant de ma part.
Vous interrogez votre oncle aussi.
Oui.
Qui commente une photo de famille. Et il est très ému.
Oui, il est ému. Oui, il D'ailleurs, il voit une photo sur laquelle il y a sa mère, son frère, mon père et d'autres membres de la famille. Et moi, ce qui me trouble beaucoup dans cet entretien, c'est que devant plusieurs photos, il dit « mais je ne vois pas qui ça peut être, je ne vois pas qui ça peut être ». Je ne vois pas qui ça peut être ». Bon, c'est un vieil homme, hein, il est mort un an ou deux ans après. C'est un vieil homme, sa mémoire était... Enfin, il est arrivé en France, il avait 12 ans, donc c'est compliqué pour lui de se remémorer tous ces visages. Et voilà, on voit, il y a une espèce de mise en avant, comme ça, de l'oubli, de l'effacement, qui me plaisait bien.
Parce que votre famille paternelle, vous l'avez rencontrée tard.
Non, parce que, enfin, non, ma famille paternelle, non, j'ai toujours connu ma grand-mère, mon oncle, justement, mes deux oncles. Il y en a un qui vivait aux États-Unis, bon, que je voyais moins, bien sûr. Et puis, j'ai aussi fait la connaissance de vagues cousins qui étaient en Belgique, mais ma grand-mère, mon oncle, je les voyais très souvent, oui, quand même.
Et vous n'irez plus à Sablé-sur-Sarthe?
Non, c'est un... j'y suis allé, je savais que j'irais une dernière fois après le tournage, puisque en respectant la logique des choses, certaines personnes devaient mourir avant moi. Et ce qui s'est produit, c'est une vieille personne qu'on voit dans le film d'ailleurs, et qui est morte. Et donc je suis allé à son enterrement, et je savais qu'après son enterrement, c'était donc la dernière fois. Oui. Il y a eu une projection du film à Sablé, à laquelle je ne suis pas allé, mais j'ai écrit un texte qui a été lu. Voilà. Mais j'ai écrit un texte pour expliquer pourquoi je n'y allais pas.
Et vous savez comment il a été reçu, le film? Donc, ont été invités vos amis, tous ceux qui...
Il n'y a pas eu d'invitation. C'était à la Maison de la Culture de Sablé, qui est une jolie maison de la culture, qui est très active. Et il y a eu une projection, donc dans la salle de projection de cette maison. Et je sais que il y a eu beaucoup de monde. Et que les gens ont beaucoup discuté ensuite, ça je sais, alors on m'a dit que ça s'était bien passé, mais bon, je n'étais pas là, donc je ne sais pas de quelle manière ça s'est bien passé.
C'est aussi le portrait d'une ville de province, votre film.
Oui.
Le portrait de Sablé-sur-Sarthe.
Mais c'était au départ, ignorant un petit peu les tenants et les aboutissants, ayant ce désir, mais ne sachant pas exactement comment le traduire, je m'étais mis dans l'idée de faire le portrait de cette ville. Voilà. Et puis, à partir de là, beaucoup de choses ont rejailli, ont surgi, évidemment, au fur et à mesure du tournage. Et puis après, il y a eu le montage qui a été un moment très, très important, qui a duré un an et demi. Oui. Parce que, comme vous le savez, j'ai un autre métier.
Et pourquoi vous avez choisi de figurer sous la forme d'une marionnette dans votre film?
C'est venu de l'impossibilité d'imaginer faire jouer un enfant ce rôle. Je ne voyais pas, je voyais des acteurs pour la mère adoptive, pour l'homme, pour certaines scènes là qui se passent au restaurant, etc. Mais je ne voyais absolument pas. Pour moi, il y avait une totale impossibilité. Et c'est en voyant des photos de Bernard Faucon, d'une part, et puis en voyant un spectacle de Gisèle Vienne, adapté d'un auteur que je publie, de Dennis Cooper, où elle utilisait des poupées, que j'ai pensé à ça, voilà. Que tout d'un coup, ça a été pour moi, ça devenait évident. Et c'est une poupée de Gisèle Vienne qui a joué ce rôle.
Vous auriez pu être une silhouette du film Paolo Tchaïkovski, Laurence. Vous, non?
Non, je n'en ai pas éprouvé la nécessité. Ça s'est passé comme ça. Ça ne m'a pas posé de problème. Enfin, pour moi, c'était évident que je n'apparaissais pas dans le film. Sinon, de manière donc très, très déplacée, par cette poupée, ce mannequin.
Dans votre catalogue, il y a un auteur qui fait des portraits de jeunes gens à la vie très chaotique. C'est Emmanuel Bayamaktam.
Oui.
C'est des jeunes gens des années 2010.
Oui.
Par exemple, un jeune travesti. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages
C'est que ce sont des...
Très contemporains.
Oui, ce sont des personnages très contemporains. C'est qu'ils sont en charge d'un certain nombre de contradictions de notre société, aussi bien des choses qui vous tirent en arrière que des choses qui sont exaltantes, enfin des espoirs et surtout, enfin c'est là encore une fois, c'est la manière dont Emmanuel Bayamaktam organise tout cela avec une langue extraordinairement riche et baroque et une vision très très exaltante des choses. Enfin, il y a une sorte de lyrisme qu'elle maîtrise parfaitement qui me transporte. C'est une forme d'écriture qui est assez peu représentée dans la maison, mais que je suis heureux d'avoir.
Elle les rudoie, ces personnages, Emmanuel
Bayamaktam. Elle les rudoie, elle leur fait vivre des choses qui ne sont pas évidentes. Mais il y a une sorte comment dire, de volonté de lutter contre la fatalité, de lutter contre les déterminismes. Si vous voulez, on pourrait dire que, je crois que c'est Saint François qui disait ça, l'amour n'est pas aimé, c'est une révolte perpétuelle contre cet adage, enfin cette constatation que l'amour n'est pas aimé.
Ça, c'est une époque difficile à aimer, je trouve, celle des livres de Bayam Akhtam.
C'est une époque. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à des personnages, à des figures qui sont dans une certaine forme de marginalité sociale, sexuelle et culturelle. Et donc elle montre toutes les difficultés auxquelles ils ont à faire face et toutes les avanies qui peuvent survenir. Et elle le montre avec beaucoup de rage. Voilà, il y a de la rage dans ses livres. C'est ce qui me, plaît beaucoup.
Ouais.
Oui, ça me plaît beaucoup parce que c'est une rage, encore une fois, qui passe à travers une écriture.
Et vous aimez bien retrouver de la rage sous la plume des auteurs, ou c'est là, ça se trouve sous sa plume?
Sous sa plume, ça se trouve, je pense, sous d'autres. Là, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais c'est une tonalité parmi d'autres et c'est une tonalité que j'aime. On ne peut pas dire qu'il y ait de la rage dans Reznikov, par exemple. Non, il y a au contraire une fausse froideur qui est là aussi très, très révélatrice, enfin, et de l'auteur et de la réalité qu'il décrit. Mais ce n'est pas du tout la même démarche.
Lorsque vous êtes enthousiasmé par un manuscrit qui arrive, vous partagez votre enthousiasme avec qui ?
Avec mes collaborateurs. Hein, il n'y a pas de comité de lecture dans cette maison, mais tout le monde lit les textes hein, quand même. Donc il n'y a pas de réunion pour en décider. Mais dès que je tombe sur un texte qui me pose un problème ou qui m'enthousiasme, je le fais lire autour de moi pour voir un petit peu les réactions et pour, à partir de ces réactions, mieux cerner ma propre position par rapport à ce livre.
Vous êtes combien ici à travailler ?
On est six. Mmh. On est six en tout, moi y compris.
Mmh. Donc six personnes lisent les livres que vous...
Voilà, six, oui, exactement. Oui.
Et vous publiez régulièrement?
On publie, compte tenu de la revue Trafic, donc la revue de cinéma, on publie une cinquantaine de livres par an.
Et chaque année, vous publiez de jeunes auteurs?
Chaque année, je m'efforce d'avoir de nouveaux auteurs.
Jeunes, c'est vrai, entre 20 et 30.
De nouveaux auteurs, oui. Mmh. Cette année, j'ai publié Lise Charles, qui est donc très jeune, hein, qui a
25-26 ans,
oui. Voilà, c'est le nouvel auteur de l'année. Je vais en publier l'année prochaine. Je vais publier un premier roman d'une personne qui est moins jeune, peut-être. Mais enfin bon, c'est un premier roman et c'est intéressant.
Comment est arrivé le manuscrit de Lise Charles ?
Par la poste. Par la poste.
Donc son livre s'appelle La Cativa.
Oui.
Et vous nous avez dit cette semaine que vous étiez frappé de constater que les livres ressemblaient à...
Oui.
Elle ressemble à son livre.
Je dirais pas qu'elle ressemble à son personnage, qui est une méchante personne, mais qui est en même temps très séduisante. Je n'aurais pas cette audace, mais elle ressemble effectivement à la manière dont elle écrit, c'est-à-dire toute de finesse, de lucidité, parfois cruelle. Enfin bon, c'est très... Oui, elle ressemble beaucoup.
Et ce livre, vous l'aimez parce qu'il parle de l'époque et par un angle que vous ne voyez peut-être pas, puisque c'est une relation sentimentale entre deux jeunes gens. La jeune femme est très agacée par son compagnon.
Mmh. Elle veut faire en sorte que ce soit lui qui prenne en charge la rupture, oui, c'est ça.
Elle ne le supporte plus.
Elle ne le supporte plus, mais elle est un peu lâche, et ni physiquement ni intellectuellement, elle est un peu lâche. Et elle va faire en sorte que ce soit lui qui prenne la décision, ou qui constate que c'est fini. Et non, je ne sais pas si ce livre parle du monde contemporain. Il parle de relations amoureuses qui sont, bon, comme chacun sait, éternelles. Et en tout cas, c'est une espèce de marivaudage négatif qui m'a beaucoup plu, parce que je le trouve formidablement... intelligent. Je trouve qu'il y a une écriture très acérée, très, très nourrie de références et qui les distribue avec beaucoup de grâce. Donc voilà, c'est une. Mais je ne dirais pas que c'est. Comment dire, le côté. Je ne veux pas dire que ce livre n'est pas contemporain, mais ce n'est pas le côté contemporain éventuel qui m'a. Parce qu'au contraire, c'est un peu suspendu. Ça se passe dans une belle maison patricienne en Italie. C'est un été. C'est, tout ça est un peu suspendu. Et je ne suis pas certain que ce soit la contemporanéité du livre soit sa caractéristique principale, même si ce sont des jeunes gens, évidemment, d'aujourd'hui, qui ont des relations amoureuses plutôt décontractées.
Le vocabulaire est d'aujourd'hui.
Le vocabulaire.
Il me hypergonfle. Oui, il y a des termes.
Il y a des termes, oui, il y a des termes. Ben, c'est la moindre des choses. On est aujourd'hui, donc il y a des termes d'aujourd'hui, oui.
La relation avec un écrivain aussi jeune, elle est...
Ah, c'est bizarre, parce que, bon, voilà, en effet, je pourrais être son père, voire même son grand-père. Et donc, c'est un peu... c'est un peu... pour moi, c'est étrange, parce que, comme vous le savez, on a beau être âgé, on est toujours en soi, on est toujours l'enfant qu'on a été, ou le jeune homme, ou la jeune femme. Et donc, j'ai toujours un besoin d'accommoder avant de commencer à avoir des relations avec des nouveaux auteurs très jeunes, parce que, oui, ben, il faut pas que je suis pas leur copain, par exemple.
Il y a un autre auteur jeune dans votre catalogue, qui est Pierre-Yves Bailly.
Oui. Oui, lui, alors, oui, il parle vraiment, vraiment, vraiment du monde actuel. Bon, cela dit, j'attends un livre de lui, là, que je devrais avoir d'ici un mois ou deux, qui sera plutôt un livre de science-fiction, si j'ai bien compris, ou en tout cas avec une thématique, avec un substrat comme ça, science-fiction. Bon, on va voir. Oui, mais il a parfaitement intégré le langage d'aujourd'hui, la mentalité, et c'est normal puisqu'il est d'aujourd'hui et qu'il est jeune. Donc,
comment a évolué votre goût en 40 ans d'édition Paul Tchaïkovski-Laurence?
Je suis incapable de répondre à cette question parce que mon goût a évolué. La trace en est mon catalogue et l'évolution de mon catalogue. Cela dit, comme je publie des auteurs depuis 20, 30 ans, 40 ans, on peut aussi dire que mon goût n'a pas évolué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais simplement, comme je crois l'avoir dit, je n'aime pas analyser ce que j'ai fait. Alors peut-être n'en ai-je pas les capacités, les moyens théoriques, mais de toute façon, n'aurais-je les capacités, les moyens théoriques, je pense que je m'en dispenserai parce que j'ai trop peur que ça fige ma pratique.
Vous n'avez pas des... Vous dites pas, il y a 30 ans, 35 ans, j'avais des obsessions, je cherchais ça dans un manuscrit.
Mais non, parce que maintenant... je ne cherche rien. C'est-à-dire que j'attends que ça arrive. C'est un métier de paresseux, hein, celui que j'exerce. Parce que je ne vais pas chercher les manuscrits, je les attends. Je les attends avec impatience, mais je les attends.
Vous sentez parfois, ça peut arriver qu'un manuscrit ressemble à ce qu'un auteur s'imagine de votre désir d'éditeur?
Oui, c'est-à-dire que comme l'esthétique de la maison est assez compliquée à définir, hein, je vois des manuscrits qui visiblement sont inspirés ou par des auteurs que je publie déjà. Oui, et puis d'ailleurs très souvent il y a des lettres d'accompagnement dans lesquelles on me dit « J'apprécie particulièrement tel et tel auteur de votre catalogue et c'est pour ça que je vous envoie mon livre. » Et bon, ça induit une espèce de ressemblance ou de proximité avec les auteurs qui sont cités. Mais il y a aussi des choses totalement, totalement inattendues formellement aussi. C'est pas... Voilà, je pense pas qu'on écrive pour POL. Enfin, on écrit pour écrire, tout simplement. Et puis bon, chez POL, ça marche ou ça marche pas, ça prend ou ça prend pas.
Parfois, vous lisez des livres édités par des confrères.
Ah, quand même,
et mais en vous disant, ah, ça, c'était pour moi, c'était pour nous.
Oui, ça, ou ça, j'aurais aimé le publier, oui, bien sûr. Il y en a partout, hein. Il y en a quelques-uns ici ou là.
Chaque année, ça vous arrive?
Peut-être pas chaque année, mais ça m'arrive, oui, bien sûr, ça m'arrive. Mais bon, c'est comme ça. Je ne peux pas prétendre récupérer tout ce qui est bien.
Paulo Tchaïkovski, Laurence, il y a quelques phrases dans La maladie de Saxe que j'aime bien, qui sont « Sur des feuilles et des cahiers, Bruno Saxe déverse le trop-plein de ce qu'il soigne, mais qui soigne la maladie de Saxe ?» Et est-ce que vous, ça, le trop-plein, vous qui lisez beaucoup de textes intimes, ça vous arrive?
Non, non, il y a parfois, et surtout en ce moment, où bon, j'ai d'autres fonctions qui se terminent cette année
au CNC.
L'avance sur recette, qui me donne beaucoup, beaucoup de travail et qui fait que je sature un peu en lecture ces temps-ci, mais ça n'est pas pour tel ou tel registre, ce n'est pas parce que je n'en peux plus de...
Des malheurs
des autres.
Des vies sexuelles compliquées, voilà. Des vies sentimentales compliquées.
Oui, non, ce n'est pas ça du tout, c'est simplement une surcharge de travail qui, Dieu merci, va un petit peu s'alléger l'année prochaine. Mais non, sinon, j'aime ça, donc plus il y en a, plus je suis content en principe. Hein. C'est un... Là, je suis confronté à une impossibilité matérielle, mais ou à une difficulté matérielle, mais c'est uniquement matériel. C'est que les journées n'ont que 24 heures. Enfin, voilà, c'est tout. Et puis, il faut dormir un peu.
Mais quand vous avez découvert les textes de Guillaume Dustan,
oui.
La lecture, au bout d'un moment, ne vous éprouve pas.
Si, c'est éprouvant, bien entendu, c'est éprouvant. C'est tellement fort, tellement puissant, tellement violent que, et évidemment, on le subit comme lecteur, mais c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe quand un texte vous met mal à l'aise. Je sais que, par exemple, je crois que je l'ai dit à l'auteur, donc je peux le dire en public, mais je n'ai jamais pu lire entièrement les dernières pages du livre de Emmanuel Carrère, La Moustache. C'est-à-dire que j'ai sans doute lu à plusieurs reprises, j'ai lu à plusieurs reprises la fin, mais je n'ai pas lu les mêmes choses à chaque fois. Mais les trois dernières pages de La Moustache, c'est pour moi impossible à lire, tellement c'est terrible. Je peux aussi vous avouer que j'ai toujours eu beaucoup de mal. Enfin, je me suis repris à plusieurs reprises pour finir Madame Bovary. Parce que quand elle commence à vomir, là, je ne supporte pas.
Merci, Paulo Tchaïkovski, Laurence.
C'était la rencontre en 2014 entre Virginie Bloch-Lenné et Paulo Tchaïkovski-Laurence, fondateur des éditions POL qui vient de nous quitter. À voix nue, coordination Claire Poincignon, production Virginie Bloch-Lenné, réalisation Anne-Pascale Desvignes et Annabelle Brouard, prise de son Bernard Quentin. Dès lundi, une nouvelle rencontre.